Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, vous êtes avec Vanity Fair pour notre podcast Écoutez les filles, présenté par Sophie Rosemont et qui, comme son nom l'indique, laisse la parole aux filles. Pour cette nouvelle saison, nous accueillons des artistes de la nouvelle scène française. Elles font parler d'elles et nous avions envie de leur donner la parole.
To Love is to Live, c'est le nom du très bel album solo de Jenny Bess qui est sorti l'année dernière. Et avant cet album solo, on a vu Jenny Bess devant la caméra du cinéaste Jean-Paul Sivérac en 2005, puis au micro du duo rock John et Jen, avant qu'elle ne fasse partie d'un groupe incandescent et féminin, les Savages. Là, ces jours-ci, sort un album enregistré avec Excusez du peu, Bobby Gillespie du groupe Primal Scream. Bref, Camille de son prénom, Jenny Bess, ne s'arrête jamais. Et en plus, tu pratiques la boxe. En quoi ce sport compte-t-il pour toi, en tant que femme, en tant qu'artiste ?
En bien plus que je l'avais imaginé. Quand je suis arrivée à Paris il y a 4 ans, après 12 ans à Londres, il se trouve qu'on m'a conseillé de faire ce sport suite à des essais que j'avais fait pour un film d'action que j'ai finalement pas tourné. Et j'ai cherché des clubs et il s'est trouvé qu'il y avait un club à 3 minutes de chez moi, dans le 20e, qui s'appelle le Hall Boxing. Et en fait, j'ai trouvé plus qu'un sport, j'ai trouvé une communauté. Et quand on arrive dans une nouvelle ville, parce que moi j'avais jamais habité à Paris avant, je me rendais pas compte à quel point j'avais besoin de retrouver ça, c'est-à-dire trouver un endroit où je peux aller, où je revois les mêmes personnes qui sont pas des amis, mais qui sont des voisins presque, et qui est une pratique qu'on m'apprend, mais aussi une détente, on peut parler, on peut se voir. C'est-à-dire que c'est une communauté, quoi. Et je me rendais pas compte à quel point j'en avais besoin. Et quand je l'ai découvert, j'ai juste adoré, quoi. Et ça m'a détendue par rapport à ma ville, par rapport à cette nouvelle ville et cette nouvelle vie. Et ça m'a permis de m'intégrer, tout simplement. Et puis après, dans la pratique, un exemple concret, par exemple, la semaine dernière, j'étais en tournage et Tara Reim, donc avec qui je jouais, a fait de la boxe aussi. Et je lui parlais de mes rapprochements que je faisais par rapport au fait de faire du cinéma et de la boxe. Et il était vachement d'accord, en fait. Et c'est l'idée que tout est un combat et que quand on dit action, en fait, il y a un combat qui se met en place, mais c'est un combat avec soi-même. Et la boxe, c'est ça que ça m'apprend.
Surtout quand on te voit sur scène, car la performance, c'est quand même une de tes clés en tant qu'artiste. C'est ce qui a fait aussi ta réputation, tes performances assez flamboyantes. Celles de Savages sont restées quand même vraiment dans toutes les rétines et dans toutes les oreilles. Et quand est-ce que tu as gagné cette aisance sur scène en tant que musicienne rock?
Si je retourne à l'origine, moi, quand j'ai appris à chanter à 8 ans, j'étais pétrifiée à l'idée de chanter devant les gens. Hein. Donc, c'est pas du tout un truc qui est naturel. Et d'ailleurs, c'est totalement pas naturel, je trouve, de vouloir être sur scène, d'être sur scène. Et en même temps, c'est devenu une zone de liberté et puis je suis sans danger quand je suis sur scène. Alors, c'est paradoxal, comme on est passé du total danger au sans danger. C'est la question, mais je sais pas exactement. C'est-à-dire que il y a peut-être un moment où on transcende le. Je crois que je me suis beaucoup armée, en fait. C'est-à-dire que ma liberté, elle est née avec le groupe Savages. Je pense qu'avant, j'étais toujours dans les questionnements par rapport à la scène, comment être, quoi faire et tout. Et puis le déclic, il y a eu des déclics, quoi. Mais pour ça, il fallait m'armer de mots, déjà, que j'écrivais, m'armer de sons, de ce que créait le groupe. D'un gang, quoi, d'avoir une appartenance à un groupe et de se fondre un peu dans ce groupe-là, ce qui m'a permis de m'exprimer finalement. Et après, il y avait une vraie défiance parce qu'il y avait un vrai ras-le-bol, moi, à l'époque de la scène londonienne, ce qu'on appelait l'indie rock, qui est pour moi le cimetière du rock, en fait, c'est là où tout s'est arrêté. Et j'avais un vrai ras-le-bol des groupes sur scène qui regardaient leur pompe. Et du coup, je pense qu'il y avait une nécessité, en fait, d'arrêter ces codes-là, de proposer autre chose et de regarder les gens dans les yeux. Et du coup, ça crée tout un tas de choses physiques et un peu de pensées comme ça. Mes grands questionnements, c'était qu'est-ce que je fais quand je chante pas ? Parce que je supportais pas les chanteurs qui étaient très animés quand ils chantaient puis qui avaient l'air d'attendre le bus quand ils chantaient plus. Et du coup, je trouvais que c'est comme une danse. C'est-à-dire un danseur, quand il a fait son truc virtuose, qu'il a sauté en l'air et tout, quand il retombe, il est pas, il se gratte pas le nez. Enfin, je veux dire. Donc, il y a un moment, quand on rentre sur scène, il y a une nécessité d'être présent et d'avoir une conscience de l'espace. C'est juste une écoute, encore une fois, des autres et de l'énergie qu'il y a sur le moment.
Et tu crois que ton expérience au sein du conservatoire, parce que tu as fait le conservatoire...
De théâtre, oui. D'art théâtre, dramatique.
Ça t'a aidé, même finalement à contre-coup. En quoi ça a pu nourrir ton expérience de performance, même 10, 15 ans plus tard?
Bah, en fait, je crois que je dois tout ça à mon père, parce qu'il est metteur, il était metteur en scène. Déjà, il a gagné, il y avait un prix Mouchkine à l'époque, et il a gagné ce prix-là, et on est parti en tournée en URSS à l'époque, et j'avais 4 ans, et je jouais dans la pièce. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué. Et j'allais, après l'école, j'allais voir les répétitions de mon père, quoi. Je rentrais dans cette pièce toute sombre, alors qu'il faisait très beau dehors. Ces gens s'enfermaient dans un espace tout sombre avec des lumières et des fois j'arrivais, il y avait des grands silences et je comprenais même pas ce qu'ils étaient en train de faire et en fait ils cherchaient un mot, un état, une situation, un placement et mon père dirigeait tout ça et c'est vrai que ça m'a beaucoup beaucoup appris. Mais au-delà de ça, lui il m'a appris beaucoup de choses. Et après pour tout ce qui est la scène, moi je me souviens que du coup j'ai repris beaucoup de choses qu'on m'a appris. Mon père m'a appris des choses très dures à entendre, je me souviens, mais pour ma sortie de conservatoire, par exemple, j'avais pas travaillé parce que je pensais que j'étais super douée et qu'il n'y avait pas besoin de travailler. Et mon père m'a donc assis après ça et il m'a dit, voilà, il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que, par exemple, même si tu es jolie, il va falloir que tu travailles. Parce que si tu considères que c'est ça qui va t'ouvrir les portes, tu vas te planter. Et quand on a 16 ans, 15 ans, c'est assez dur à entendre. Mais en même temps, j'étais hyper contente qu'il me le dise. Je savais qu'il avait raison. Mais c'est juste un moment d'humilité, parce que j'avais honte, en fait. Voilà. Mais heureusement qu'il m'a dit ça.
Il y a un autre homme qui compte dans ta vie.
Oui.
C'est Johnny Osai.
Mm-hmm.
Et je me souviens d'ailleurs que la première fois qu'on s'est rencontrés, donc plus de 10 ans maintenant,
exact.
C'était dans un petit bureau d'une petite agence, une agence de promotion musicale, King dans Kong. Le 9e.
Ouais.
Exactement. Et vous étiez tous les deux extrêmement fusionnels. Lui, un peu plus âgé que toi, mais alors toi, déjà une détermination assez bluffante. C'était John et Jane.
Mm.
Et ce qui est beau, c'est que dans l'album avec Bobby Gillespie, tout comme dans ton album solo d'ailleurs, tu parles de la qualité, de la beauté de l'amour lorsqu'il est pérenne, lorsqu'il dure longtemps.
Oui.
Et cette complicité avec Johnny Hostile, elle perdure encore aujourd'hui.
Oui, oui. À mon grand étonnement, mais en même temps à ma grande fierté. Enfin, je veux dire, c'est... Quand on rencontre quelqu'un qui nous complète autant, c'est étonnant de. On le planifie pas. Je sais pas quelque chose que j'ai jamais planifié. Je me suis jamais dit c'est ça que je veux dans la vie. Ça m'est arrivé en fait. Et c'est ça qui est, je trouve, assez étonnant et chouette en même temps. Enfin, à l'époque, John et Jane, ça a été un vrai apprentissage pour moi parce que quand j'ai rencontré Johnny Hostile, j'avais pas été créative autrement qu'avec un crayon, un papier ou avec jouant la comédie ou ce genre de choses. Mais lui m'a appris à être créative avec la musique. Et oui, je suis très fière, ouais, de surtout le premier album. Je trouve qu'il y avait quelque chose de très lâché comme ça, fait nous-mêmes. On ne peut pas recréer ce moment-là. C'était vraiment chouette. Donc voilà. Après. On s'est noyé un petit peu dans le music business et on a eu un peu un dégoût de ça mais en même temps on a créé notre label ensemble à cause de ça, donc on a fait vraiment des rebondissements chouettes suite aux expériences positives et négatives qui nous sont arrivées. Moi créant Savages après derrière et lui toujours étant producteur du groupe, étant toujours là, vraiment cinquième membre du groupe quoi à l'époque.
Une boussole,
ouais, en quelque sorte. Je sais pas s'il aimerait être comparé à une boussole, mais pourquoi pas.
Moi, j'aime bien ce terme de boussole.
Ouais.
Ça peut être assez mystique aussi, une boussole.
Oui, tout à fait.
Et quand je repense à Savages, j'ai souvent pensé à des groupes dans lesquels cette formation s'inscrivait, que ça soit Goldie and the Gingerbreads ou L7, ou Fanny, dans un autre genre, en étant quand même
ouais.
Plus psyché. Et la plupart de ces groupes avaient quand même beaucoup souffert du fait d'avoir été des femmes,
ouais.
Qu'on ne pensait pas du tout qu'elles étaient capables de tout ce qu'elles offraient du point de vue musical et artistique. Est-ce que vous avez ressenti ça au sein de Savages?
Alors, c'est une question que je me pose beaucoup en ce moment parce que j'écris un peu dessus. J'aimerais parler de ça exactement, en fait. Mais J'ai pas la réponse encore. Je crois que sur le moment, dans l'expérience même du groupe de filles dans le music business, j'étais un peu dans l'œil du cyclone et c'est vrai que je n'intellectualisais pas les choses trop, je les vivais. Mais le recul fait que je sais que le vécu, et ça c'est quelque chose qu'on se dit aussi entre nous dans le groupe, moi et les filles, c'est que le recul, c'est que ça a été très dur. Qui est pas forcément la faute que de l'extérieur, c'est aussi notre faute aussi. On était assez jeunes, on a fait des erreurs sur certains aspects, mais je pense que aussi il y a un contexte qui est que, disons que la force de Savages, c'était qu'on allait sur le terrain des mecs. Et je crois que c'est pour ça que c'était un groupe assez unique. Je parle au passé d'ailleurs, parce que je devrais pas, c'est pas un groupe qui est fini. Il se peut qu'on refasse des choses. Et c'est un groupe qui va sur le terrain des mecs, qui ne veut pas être stéréotypé en tant que femme. Donc, on refusait tous les discours féministes. Alors, c'était un petit peu, du coup, à double tranchant. Parce que je pense qu'aujourd'hui, je serais beaucoup plus ouverte à en parler. Mais je pense qu'à l'époque, j'étais très jeune, mais j'avais pas la culture du féminisme. Peut-être j'avais trop l'honnêteté de le dire. C'est-à-dire que je ne me sentais pas de prendre à bras le corps cette histoire, cette grande histoire des femmes. Même si tout d'un coup, en faisant un pas artistique qui était Savages, je mettais un pas dedans. Je contribuais, mais je ne savais pas que je contribuais. Tout ça était vraiment instinctif. Aujourd'hui, je suis capable de l'analyser un peu plus. Mais à l'époque, quand des journalistes venaient me parler de féminisme, je les renvoyais balader en leur disant non, demandez aux hommes ou demandez à d'autres gens. Moi, je fais mon travail en tant que musicienne et je veux que vous me parliez de ça. Je veux que vous me parliez de musique. Alors souvent, c'est à double tranchant, c'était mal vu, ou des fois même mal vécu par les membres du groupe, parce qu'il y a des choses à dire et on peut en parler. Mais c'était une position très ferme qu'on avait aussi en groupe, c'est-à-dire qu'on avait décidé, par exemple, de s'habiller qu'en noir. Pas de plumes, pas de rose, pas de couleur, pas de lumière sur scène de couleur aussi, on ne voulait que de la lumière blanche. L'idée derrière tout ça, c'était que on savait que si on commençait à s'habiller un peu, d'avoir du style, trop de style, les journalistes ne parleraient que de ça. On serait amené à faire beaucoup de choses fashion et on oublierait de parler de notre musique parce qu'on est des femmes. Et ça, je pense qu'on a eu raison. Et à travers ça, on a créé un style. Enfin, notre style. Je dis pas qu'on a créé un style, mais on a créé notre style. Savages était remarqué, remarquable, enfin, dans le sens propre du terme. C'est-à-dire qu'on pouvait se dire ça, c'est Savages. Et ça, je suis assez fière de ça. Mais c'était un truc de circonstance. C'était plutôt un refus de, on voulait jamais être amené sur le terrain parce que vous êtes des femmes. Quand on demandait qu'est-ce que ça fait qu'être une femme pour faire telle chose, on disait mais qu'est-ce que ça fait d'être une femme quand je monte les marches. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça change. Enfin voilà. Bon, c'était un peu une position. Hein. Encore une fois, aujourd'hui, je pense que je répondrais différemment. Mais malheureusement, pour répondre à la question, je crois que c'est toujours une étape qui est pas possible. On n'accepte pas à ça. On nous donne pas l'histoire de la musique autant qu'on la donne aux hommes. On nous inscrit pas autant. C'est d'une évidence folle en fait. Mais je me battais contre ça et je me disais que si jamais je me rendais même physiquement trop féminine, on pourrait pas me prendre au sérieux. Donc ça allait même jusqu'à la manière dont je m'habillais, ou ma coiffure, ou je me rasais les cheveux. Mais un exemple flagrant, c'est on fait la première partie d'Iggy Pop pour le festival Meltdown de Yoko Ono à Londres. Et Yoko Ono vient nous voir en répétition, avant la représentation. Et elle demande ensuite une demi-heure avant qu'on monte sur scène, on est appelé pour aller voir Yoko Ono. Et Yoko Ono nous accueille et elle me prend le bras et elle me dit vraiment je voulais m'excuser. Je fais ah bon mais pourquoi? Tout va bien Yoko, il y a pas de problème. Elle me dit non, je voulais vraiment m'excuser parce que je vous ai vu en répétition et vous auriez jamais dû être présenté comme une première partie d'Iggy Pop. Je fais ah bon mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Alors elle me fait vous auriez dû être on dit double bill en anglais, c'est-à-dire en tête d'affiche à côté d'Iggy Pop. Enfin, vous auriez dû être à la même hauteur qu'Iggy Pop. J'étais extrêmement flattée et je trouvais ça extrêmement généreux de sa part, mais aussi assez perspicace au final. Assez clairvoyant de sa part, dans le sens où moi, après que je le mérite ou pas, c'est pas ça la question. Je pensais juste qu'elle avait vu que déjà, je pense qu'on était à la hauteur, sans vouloir me vanter, mais aussi, elle a vu que son faux pas. Je pense qu'elle, en tant que féministe, en tant que femme, elle s'est dit, mince, j'ai mis ces jeunes filles en première partie. Peut-être que ça avait aidé des hommes, on aurait fait une double bill, quoi. Et encore une fois, je suis capable de le voir maintenant. À l'époque, je te mets non, Yoko, mais non.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça me fait penser à cette phrase qui revient toujours dans mon émission, cette formule de Gloria Steinem. La vérité vous libérera, mais d'abord elle vous mettra en rage. En quoi elle te parle, cette formule de Gloria Steinem?
Bah, si on parle de la colère, c'est vrai que c'est un sentiment que j'ai beaucoup exprimé, surtout dans Savages. Je ne prenais pas une seule photo sans foncer les sourcils, c'était voulu, c'était conscient. Mais c'était parce que je voulais imiter Johnny Rotten. Mais on ne m'a pas comparé à Johnny Rotten, on m'a comparé à Souci.
Dommage.
Ouais, c'est dommage.
Ou pas, mais bon.
Oui, voilà, ou pas, bien sûr, mais c'était rigolo. Mais encore une fois, c'est dur d'analyser encore. Je suis encore en train d'essayer de comprendre un peu tout ce trajet avec Savages, mais la colère a été quand même assez présente dans ces années-là, c'est sûr, et même avec les gens avec qui on travaillait. J'ai été confrontée des fois à des conneries qui étaient dites, et franchement, on se laissait pas faire. Mais du coup, on était catégorisés souvent comme des gens colériques. Par exemple, les journalistes avaient peur de nous interviewer. Honnêtement, je pense qu'il y a des mélanges, il faut pas tout mélanger. Je pense qu'il y a des fois où, en effet, j'ai été trop colérique. Ça, je suis prête à le... Moi, faire mon mea culpa, je suis capable de le faire, il n'y a pas de problème. Mais après, c'est le mea culpa de certains personnages qui n'arrivera jamais, je le sais, bon voilà.
Non, mais ce qu'on retient, c'est qu'il est plus facile de demander des excuses à une femme qu'à un homme. Et ouais. Que d'ailleurs, il y a des livres qui se font en ce moment sur ce thème, c'est... Pourquoi les femmes éprouvent sans cesse le besoin de s'excuser?
Ah, mais ça, c'est évident. Oui, par exemple, si on parle de choses un peu sordides, mais de l'abus qui est fait souvent aux filles, par exemple, dans des soirées qui sont un peu alcoolisées, par exemple, moi, c'est des choses que je vois. Moi, je bois pas d'alcool, mais du coup, je vois des choses. J'ai des exemples en tête où des filles qui seraient un peu pompettes, etc., qui le lendemain s'excusent, alors que moi, j'ai vu des gestes déplacés, que j'ai vu. Et en face, il n'y aura jamais d'excuses. Jamais, jamais. Je trouve qu'il faut faire parler les hommes plus de ça, les qui se sentent concernés. Et pas par le féminisme, s'ils veulent pas, mais par le patriarcat. Parce que le patriarcat, il y a une vraie douleur qui est vécue par les hommes. Il y a un vrai écrasement de ce qu'ils sont à cause de cette société patriarcale. Je pense qu'ils sont très tôt amenés. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est des recherches. Bon, je me suis un peu renseignée, mais ce que je lis, c'est que j'ai l'impression qu'il y a très tôt, les hommes sont amenés à sacrifier leur part sensible et l'amour. Quand on est petit, on a très vite le clan des méchants garçons avec les filles. Il faut pas être comme les filles. Ça, c'est la société patriarcale qui le dicte. Et les hommes sacrifient très tôt cette part-là. Ce qui les rend violents, ce qui amène tout un tas de choses derrière. Bon, je simplifie les choses. Il y a certainement des gens beaucoup plus experts qui peuvent expliquer ça mieux. Mais par contre, cette part de sensible, elle existe toujours. Moi, je connecte souvent avec des hommes qui ont cette part de sensible et qui la retrouvent, ou alors qui sont en chemin de la retrouver ou qui sont en recherche de cette chose-là. Mais il faut savoir que déconstruire ça, c'est un combat de tous les jours. Je veux dire, c'est comme un alcoolique qui doit plus boire. En fait, on a tellement construit les hommes d'une certaine façon. Alors peut-être la jeune génération va être éduquée différemment, mais bon, la société patriarcale, c'est écrasant quand même, hein, c'est assez dominant. Et dans la période Savages, je pense que j'étais encore en conflit par rapport à ça. Et oui, je voulais vivre dans une société qui me demandait pas ce qu'était ma situation de femme, et en même temps, je me rends compte que j'essayais d'être le moins possible d'être une femme.
Et c'est un propos assez intéressant et qu'à explorer d'ailleurs. La poétesse américaine, dont tu vas nous lire
oui.
Un extrait, là, maintenant.
Ah bah oui.
Ça fait quand même partie des terrains de réflexion de Sharon Holds, très militante, élevée dans une famille religieuse et qui a su dépasser pas mal de carcans pour mener sa poésie, son activisme également.
Alors, Sharon Holds, c'est une découverte que j'ai faite il y a peut-être 2 ans, mais je suis obsédée par son écriture. Elle est devenue très, très présente pour moi. Là, le poème que je voulais vous lire, c'est tiré d'un recueil qui s'appelle Ode, qui est sorti en 2020. Moi, je suis bluffée par l'écriture, par la liberté, la beauté qu'elle arrive à mettre. Mais aussi, il y a une espèce de Il y a un grand sens du tragique, mais il y a une grande générosité et un grand sens de l'intime et une grande générosité. C'est-à-dire qu'elle peut parler d'elle-même et en même temps être extrêmement générale. Et ça, c'est quand même la touche, le sublime de la poésie, quoi. Et c'est d'une simplicité apparente, mais en fait, on apprend toujours quelque chose dans son poème. Elle met une lumière sur quelque chose qui est banal, a priori, mais qui en fait ne l'est pas. Donc moi, à la maison, je la lis en anglais. Donc j'ai des poèmes que je préfère dans ce recueil, je ne vais pas pouvoir vous les lire, mais par contre, j'en ai trouvé un qui est traduit.
Et il s'appelle comment, celui-ci ?
Alors, il s'appelle « Ode du décolleté fané ». Quand j'ai vu ça pour la première fois, j'étais stupéfaite qu'on puisse sortir de chez soi et exposer ça. Ses lianes et ses serpents, ses rides, ses tortillons de coups d'oisillon. Stupéfaite d'imaginer que j'avais passé sur un ancêtre de cette chose, si un décolleté fané est bien le descendant de seins jeunes et fermes, certaines des premières heures de ma vie, que j'y avais appris à adorer les courbes crémeuses de la lune. Chez ma mère, le désir d'être touchée sur ces vieux jours était si intense que je pouvais presque l'entendre, comme le gémissement des sangs bosselés autour du téton, chacune semblable à une gomme rouge-rose, vivante et affamée. Et aujourd'hui, je suis ma propre pente, comme un torrent en crue. Et si je vis assez longtemps, ma poitrine, sur mon sternum, ressemblera peut-être à un organe, un cœur traînant derrière lui, veines et artères. Je veux louer ce qui disparaît et qu'on ne peut jamais rattraper. Je veux vivre assez vieille pour avoir l'air à peine humaine. Je veux les aimer autant l'une que l'autre, la naissance, et sa fille et mère, la mort. C'est inconfortable, en fait. Et c'est ça que j'aime bien, je crois.
Ça prend un parti aussi. C'est une poésie qui prend un parti.
Oui, qui questionne aussi même sa propre lecture d'un court idée. Tiens, un court idée, elle nous demande, elle met une loupe. Et c'est vrai qu'on n'a pas tendance à le regarder trop, un court idée. On détourne souvent l'œil. Et là, elle nous force un peu à regarder et elle nous fait voir un peu sa façon de voir tout en ayant toujours cette phrase à la fin qui nous permet de transcender tout ça. C'est vraiment, c'est du génie à ce niveau-là, je trouve. Après, il y en a plein d'autres qui sont assez dingues. Hein. Moi, j'adore l'ode au pénis, hein, par exemple, mais bon, je ne l'ai pas là en français. Il y a l'ode du clitoris aussi. Mais encore une fois, c'est des vues très, très, très singulières, hein, très particulières. L'ode au tampon, enfin, il y en a plein. Hein, c'est... Par exemple, l'ode au tampon, ça peut être très bien une histoire qui n'a rien à voir avec le tampon, mais elle nous ramène toujours à ça. Enfin, c'est vraiment très intelligent.
Justement, par rapport à la féminité. Tout à l'heure, tu parlais de ce parti pris extrêmement sobre, quasiment masculin de ouais. Savages. Et à côté de ça, moi, je t'ai toujours connue aussi très féminine.
Ouais.
T'as toujours aimé les costumes. Aujourd'hui, c'est comme si tu avais trouvé un équilibre. C'est-à-dire que t'as gardé ses cheveux très courts, tu te joues des codes masculins et de l'androgynie. Et en même temps, t'assumes complètement, enfin, tu vis, je dirais même. Complètement ta féminité.
Oui, j'essaye en tout cas. Après, comme dirait Blanche Gardin, des matins je me lève, je me sens pas forcément femme, mais il y a des jours quoi. Je pense que c'est, il y a des fois j'aime beaucoup jouer du côté masculin et des fois j'aime plutôt être mettre une robe ou voilà. Mais dans le cinéma justement pour revenir à ça, c'est assez intéressant justement la vision des réalisateurs là-dessus qui et ça me fait plaisir quand par exemple ils essayent d'adoucir des choses. Parce que je suis quelqu'un d'assez angulaire quand même et assez, j'ai une énergie et des fois pour des personnages j'ai besoin d'adoucir et ça j'aime bien parce que ça fait aussi partie de moi et je pense que c'est aussi une carapace que je me suis faite de montrer cette pas violence mais cette énergie quoi, cette envie de dévorer le monde, cette et du coup le fait de m'adoucir des fois ça m'apaise. Le cinéma me permet aussi de découvrir d'autres choses, même des nouveaux vêtements, des choses qu'on ne porterait pas d'habitude. Et du coup, ça amène à autre chose.
Et pour terminer, To Love is to Live.
Oui.
On a ouvert la conversation avec ces mots. On va la conclure avec ces mots-là, qui sont assez beaux, qui sont donc le titre de ton album solo. J'imagine que c'est ton mantra. Aimer, c'est vivre.
Aimer, c'est vivre, ouais. Bah oui, enfin, l'amour, quoi d'autre? Malheureusement, je crois qu'on revient toujours à ça. Enfin, malheureusement, non. Pas malheureusement, d'ailleurs. Mais j'écris un nouvel album et c'est vrai que je me rends compte que je reviens toujours à ça. Mais tant mieux, parce que si j'en parle, c'est que j'en ai besoin. Après, c'est toujours des angles différents et des façons de le voir différents, de l'amener de différentes façons. Et je pense qu'avec les années aussi, on n'a pas besoin des mêmes choses. Mais c'est toujours l'amour. Mais l'amour évolue, je trouve. Et ça, j'aime bien.
Comme la musique.
Comme la musique, exactement. Et... Mais de toute façon, projet par projet, que ce soit musique ou film, c'est l'instinct qui guide. Et puis après, en fait, on se rend compte de ce qu'on a appris. C'est plus où j'avais vu cette phrase, mais c'est la maturité, c'est pas une réponse, c'est une proposition. Dans le sens où c'est en faisant aussi qu'on a des réponses.
C'est en vivant qu'on a des réponses.
Oui, c'est en vivant qu'on a des réponses, ouais.
Merci beaucoup.
Merci, Jean, c'est moi. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries.
C'était Écouter les filles, un podcast de Vanity Fair. Retrouvez les autres épisodes de la saison sur toutes nos plateformes et partout où l'on écoute des podcasts.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.